et que tout serait bien passé, que on accueillait la différence, la diversité, que ça, on s'enrichissait de nos richesses mutuelles, et que finalement on évitait la comment dire la décadence, comment on appelle ça, la consanguinité par l'apport de sang nouveau, vigoureux, etc., etc. En fait, les promenades germaniques dans l'Empire d'Occident ont quand même réduit le PIB de, je sais pas, divisé par 4,
Les palaces,
ont abouti à la destruction quasiment totale de la vie économique, du commerce. Les paisibles villas de campagne, enfin les paisibles villas qui étaient des centres agricoles en fait, deviennent des châteaux hérissés de défense, etc., etc. Donc ça a été un véritable désastre pour l'Occident. La population a baissé, il y a eu des épidémies, des friches partout, etc., etc. Donc voilà. Hein. Lisez Les derniers jours le livre de Michel de Jaeger, là.
De l'Occident.
Oui,
Les
c'est
lois de
ça.
l'Occident,
Voilà. Qui en fait un excellent. Et pourtant, tous ces chefs germaniques étaient tous, comme l'a rappelé Camille Pascal hier, étaient tous quasiment des détenteurs de charges honorifiques de l'Empire romain. Hein. Ils étaient tous. En grande partie des généraux qui avaient combattu sous les aigles pour contre leur d'ailleurs contre leur cousin d'autres tribus pour protéger l'empire et du coup ils avaient appris aussi les techniques romaines et un beau jour quand ils se sont sentis assez forts ils ont secoué comment dire, la domination devenue fantoche des familles romaines et ils ont pris le pouvoir, tout simplement. Alors, évidemment, comme dirait Michel de Jaeger, il ne fait que l'histoire des derniers siècles de Rome. Hein. Évidemment, on ne prétend pas faire le prophète, mais bon. Voilà, mais on ne peut pas s'empêcher de repérer des parallèles. Hein. Alors, j'en dirai pas plus. Alors, voilà pour Grégoire de Tours. Alors, passons maintenant à on pourrait dire, son cousin spirituel d'Hispanie, qui est Isidore de Séville. Alors, on peut dire que c'est la génération d'après. 560, enfin à peu près, parce que comme je vous dis, on sait quand quelqu'un devient célèbre, on sait quand il meurt, mais quand il n'était pas célèbre, on ne savait pas trop quand il est né. Il est né vers 560 et il mourra en 636. Alors lui, il est de famille romaine. Il va fréquenter l'école épiscopale de Séville, où il acquiert une vaste culture, et là il va succéder à son frère Léandre. Vous savez, Léandre, c'est un nom très répandu en Espagne wisigothique, qui était un ami de Saint Grégoire le Grand, sur le siège de Séville, alors vers 599-601. Alors il avait été le témoin de la conversion des Wisigoths au catholicisme entre 587-589 à l'époque de Récared, et il va assister aux efforts d'unification de l'Espagne au départ des Romains. Les Romains vont quitter la péninsule vers 621 et donc laisser aux Wisigoths devenus catholiques le soin de retrouver, malgré leurs habitudes, là aussi germaniques, de diviser les royaumes, disons d'essayer de réunifier tous ces royaumes. Et il va travailler à organiser l'Église et à l'intégrer dans le royaume wisigothique, où elle va avoir un rôle capital. On pourrait dire qu'il va y avoir une quantité considérable de synodes tenus à Tolède. Lui préside par exemple le 4e concile de Tolède, comme métropolite, hein, comment dire, du siège le plus ancien, en 633. Et ces synodes, ces conciles, vont être un peu comme le conseil du roi, hein, comme la Curia Regis. Ils vont avoir un rôle important dans le gouvernement des rois wisigothiques, des rois wisigoths catholiques. Alors, Isidore de Séville sera déclaré docteur de l'Église, mais en 1722, donc assez tardivement. Alors, Isidore est surtout connu pour ses écrits, un peu moins pour son action pastorale ou administrative. On peut dire qu'il a recueilli tout le savoir de son temps et il l'a transmis au Moyen Âge. Tous ces gens avaient conscience qu'ils étaient à la fin d'une époque, hein, les Boèces, Cassiodore, Isidore, Jean de Damas, qu'ils étaient à la fin d'une époque. Et s'ils ne faisaient pas la synthèse, eh bien, tout ce savoir, tout ces éparpillé, risquait d'être perdu, faute de chaînes de transmission. Or, vous savez, les transmissions, ça se faisait par l'écrit et alors par voie orale, mais justement, lorsque les communautés sont désorganisées, etc., etc., que le niveau baisse, etc., il faut à un moment mettre par écrit et multiplier comment dire, les copies pour que ça puisse passer à des temps meilleurs qu'on espère. Donc ça sera un travail que feront ces témoins d'une culture qui disparaît. Alors il va faire une histoire des Goths, une histoire des Suèves, des Vandales, autrement dit des différents peuples germaniques d'Espagne. Chronique qui là aussi prolonge celle de Eusèbe de Césarée, toujours qui est toujours comment dire, la référence, et de Saint Jérôme aussi qui avait prolongé ce qu'avait fait Saint Jérôme, enfin Eusèbe. Donc une chronique historique si on veut. Alors là cette fois-ci centrée sur l'Hispanie, plus sur la Gaule comme Grégoire de Tours. Des manuels d'exégèse, des écrits sur les sciences de la nature et aussi un recueil d'hérésies à partir de Saint Jérôme et de Saint Augustin. Également un ouvrage sur les devoirs des ecclésiastiques, le De Ecclesiastici Officiis, qui est une règle monastique en fait. Il a également prolongé le De Viris Illustribus de Saint Jérôme par une galerie de portraits plutôt espagnols. Saint Ildefonse de Tolède, qui est mort une génération plus tard, y ajoutera d'autres personnalités espagnoles, dont la moitié sont de Tolède, évidemment, puisqu'il en était l'évêque. Alors, cette période de cristallisation du savoir dans des écrits, comme je vous dis, c'est typique des périodes de crise. Et en fait, on assiste à la même chose dans les écrits bibliques. Souvent, si on a les écrits, c'est parce qu'il y a eu des drames. Voilà. C'est au moment où comment dire, la tradition orale qui suppose comment dire, un nombre important de locuteurs, d'auditeurs, etc., une communauté en quelque sorte, commence à être menacée par des déportations, des guerres, de tout ce que vous voulez, qu'un certain nombre de gens se disent on fixe par écrit tout ce qu'on peut pour que ça ne soit pas perdu. Donc les phases de cristallisation du savoir sont souvent liées à des phases disons, de recul de la civilisation, ou avec des risques de rupture de tradition. Alors, un des ouvrages pour lesquels il est le plus connu, c'est, vous le devinez, ce sont les étymologies. Hein, les étymologies en 20 livres. Tout le savoir linguistique, historique, culturel, scientifique, théologique de son temps, de l'apprentissage des scolaire des arts libéraux, vous voyez, l'école, jusqu'à la science militaire, au jeu, à la navigation, à l'alimentation, en passant par la médecine, le droit, l'agriculture, la politique, tout ça, tout ce qui peut, il l'écrit, il le résume, il le commente et il en fait une sorte d'encyclopédie. Alors cet immense travail de Isidore, eh bien, sera inachevé, mais sera continué par un de ses disciples qui est Brolion de Saragosse, un évêque, seul finalement dans ses étymologies, le livre 10 parle des étymologies, d'étymologie, enfin donc des causes des mots. Alors, l'idée dans ce haut Moyen-Âge commençant, c'est que le mot donne accès à la réalité. Autrement dit, ce qui suppose déjà comme raisonnement que le mot a été produit par la réalité. Vous voyez, le mot a été produit par la réalité, et donc le mot va, dans un sens inverse, nous redonner accès à la réalité. Alors, il faut dire que la plupart des étymologies de Saint Isidore sont assez fantaisistes, mais comme étaient un peu fantaisistes les sciences naturelles de l'époque. Hein. Alors, en plus de cet ouvrage sur les étymologies, eh bien, il a aussi produit un livre de sentences, et qui est une éthique, hein, un enseignement de morale qui est inspiré des Moralia ignobe de Saint Grégoire le Grand, et qui est divisé en trois grandes parties, une partie de dogmatique, puis de spiritualité et de morale. Et finalement, c'est encore le mot morale dans ses sentences, c'est la partie morale qui est la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est adressé aux élites visigothiques. Et probablement que Isidore s'était dit qu'ils étaient peut-être un peu moins sensibles aux dogmes et à la spiritualité, mais qu'ils avaient certainement besoin d'un peu de morale pour devenir vraiment des chrétiens. Puisque vous savez quand même que dans le monde germanique, le mariage monogame n'était quand même pas très suivi, il y avait des tas de concubines, etc., etc. Donc, ça devait s'expliquer par le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient à la guerre, donc il fallait bien se...
Pourquoi avoir des cheveux, ça
protège pas de tout. Non. Et alors, donc il fallait moraliser ces pauvres Germains et ces pauvres Visigoths. Et voilà donc notre Isidore qui s'y emploie. Alors voilà pour Isidore de Séville, donc qui sera un des derniers, on peut dire le dernier père occidental, le dernier père de l'Église d'Occident. Et vous voyez, il meurt en 636. Donc on est ce haut Moyen-Âge, cette période, je crois que les Anglais, je ne sais plus qui s'appelle ça, c'est « Dark Ages », où il y a aussi l'âge sombre, en fait. Il y a aussi, je crois qu'il y a des siècles de fer aussi, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, on est quand même dans cette période qui est un peu une période un peu rude hein, pour l'Église. Et vous voyez, ce qui est quand même impressionnant, eh bien, c'est que il s'est trouvé des gens sérieux, cultivés, qui ont tout donné à l'Église et à la patrie, d'une certaine manière, à la patrie, à la cité, et qui ont transmis le flambeau, qui étaient pour la plupart donc ces vieilles familles romanisées, ou romaines ou romanisées, qui ont réussi à comment dire, convertir leur maître militaire, hein, si on peut dire. La lettre de Saint-Avit à Clovis disait « Votre conversion est notre victoire » ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment l'idée que la conversion des Germains va devenir le point de départ d'un nouvel âge chrétien, d'un nouvel âge catholique, et qui trouvera sa personnalité la plus forte dans celle du successeur de Pierre. Autant l'Orient va être marqué par la prédominance de l'empereur, même si les empereurs parfois sortent de, enfin, sont des guerriers qui ont fait un putsch, mais par la prédominance de l'empereur sur le patriarche, tandis que à l'ouest, en Occident, finalement, celui qui sera enfin, disons, l'incarnation de la civilisation, de la culture et du christianisme, de la chrétienté, sera le pape, qui va distribuer les couronnes aux uns et aux autres. Et le pape qui va à un moment se créer son propre concurrent, si j'ose dire, avec l'empereur. Oui, voilà, avec l'empereur. Alors ça dépendra des empereurs. Il y a des empereurs qui se considéreront vraiment comme les auxiliaires de du pape. Et puis, oui, Charlemagne ou Othon premier. Et puis, il y a d'autres empereurs qui auront tendance à considérer que le pape est l'auxiliaire de l'empereur, et voir quand ils ne sont pas opposés l'un à l'autre pour des raisons territoriales, du fait que le pape avait toujours quand même quelques regards un peu patrimoniaux sur l'Italie, qui en même temps faisait partie de l'Empire, enfin de la Francia Orientalis, hein, donc de l'Empire proprement dit. Alors, donc voilà, notre destin d'occidentaux qui va être marqué par cette pluralité de royaumes. Alors c'est vrai que les royaumes, eh ben, les couronnes vont être distribuées, par exemple à István de Hongrie. Donc, vous savez, quand les Hongrois vont se Étienne. Voilà. Donc son père Géza se convertit. Ça fait des remous dans la noblesse hongroise, et donc il y aura des reculs et des avancées. Enfin bref, en tout cas, Étienne contraint les autres Hongrois à rester catholiques, et hop, il recevra une couronne, ça sera la même chose en Angleterre, etc., etc. L'Angleterre deviendra même le patrimoine de Saint-Pierre, hein, directement lié au Saint-Siège, etc. Enfin voilà, bon, je m'arrête là pour l'Occident, et puis on passera la fois prochaine à l'Orient, donc les derniers pères de l'église d'Orient. Jeudi prochain. Oui, ah ben c'est jeudi prochain. Oui.